Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Pierrot pour cette seconde rencontre autour du spectacle Correspondance, Égalité et Impérialisme, une histoire intime. Nous vous proposons d'échanger avec Marc Olivier qui a opéré le choix des textes et qui sera le récitant lors du concert de la Source le 23 mai. Il nous parlera du travail sur les textes, du spectacle mais aussi des engagements qui ont marqué sa vie. Mais avant de lui laisser la parole, c'est Candice et Adeline qui vont nous présenter notre invité.
Marc Olivier, vous avez été chercheur en sciences sociales et vous avez entre autres travaillé sur l'économie et le monde paysan, en particulier sur les stratégies de développement dans des pays qui venaient juste d'acquérir leur indépendance, Maroc, Algérie, Angola, Mozambique, etc.
Aujourd'hui, vous êtes à la retraite et vous militez dans différents organismes, le CIIP, Centre d'information interpeuple, le réseau Ritimo, réseau d'information et de documentation pour la solidarité et le développement durable, et au sein de l'association ATTAC, Association pour la taxation des transactions financières et pour l'action citoyenne. Mais ce qui fonde votre engagement et ce qui va bouleverser votre vie, c'est la guerre d'Algérie. À cette époque, vous avez 26 ans, vous êtes appelé et vous refusez d'y aller. Vous devenez insoumis. Pouvez-vous nous raconter cette période de votre vie? Pour quelles raisons avez-vous refusé de faire la guerre?
J'étais dans une situation bien particulière parce que j'avais commencé ma vie professionnelle au Maroc. Mais j'ai fini mes études quand j'étais parisien et j'ai été recruté par un bureau d'études qui avait passé un contrat avec le gouvernement marocain. Tout ça, ça se passe en 1957, c'est-à-dire l'année qui a suivi l'accès du Maroc à l'indépendance. Et le nouveau gouvernement marocain voulait faire une autre politique économique que celle qui avait lieu pendant la colonisation. Donc je suis allé au Maroc, et c'était en pleine guerre d'Algérie. La guerre d'Algérie a commencé en 1954, et ça a duré jusqu'en 1962. Donc ça a 8 ans. Et pendant ces 8 années, j'ai d'abord travaillé au Maroc, et étant donné qu'il y avait beaucoup d'Algériens qui s'étaient réfugiés à cause de la guerre au Maroc, il y avait des camps de réfugiés, il y avait des intellectuels algériens, etc. Moi, j'étais en contact direct avec eux et avec tout le contenu psychologique que les Algériens mettaient dans cette guerre de libération. Si bien que quand on m'a demandé d'aller participer à la répression de cette guerre de libération, ben, je n'avais pas tellement envie d'y aller, ben, parce que je savais que c'était premièrement inévitable que l'Algérie devienne indépendante. Alors je ne vois pas pourquoi on allait faire la guerre au peuple algérien, puisque de toute façon, c'était sûr qu'ils allaient devenir indépendants. Et puis, deuxièmement, plus généralement, j'étais quand même pas d'accord avec la politique de colonisation de l'époque précédente en France, et donc je me voyais pas en train de faire la guerre pour maintenir un rapport colonial entre la France et l'Algérie. Voilà, c'était ça mes raisons d'agir, disons. Donc je suis resté au Maroc, j'ai fait des activités d'ailleurs un peu différente de ce que je faisais avant, et puis jusqu'à la fin de la guerre d'Algérie, en 62. Et en 62, les Algériens m'ont demandé de venir en Algérie pour les aider à mettre au point leur propre politique de pays nouvellement indépendant. Et je suis allé en Algérie, où je suis resté une dizaine d'années, quoi. Donc en tout, entre le Maroc et l'Algérie, j'ai passé 15 ans de ma vie en Afrique du Nord, disons.
Donc pendant la guerre d'Algérie, vous n'avez pas pu rentrer en France. Comment avez-vous vécu cet éloignement?
Évidemment, je n'ai pas pu rentrer en France parce que les gens qui étaient insoumis ou déserteurs, la différence entre insoumis et déserteurs, il faut bien la comprendre, l'insoumis, c'est celui qui refuse d'aller à l'armée. Tandis que le déserteur, c'est celui qui a accepté d'aller dans l'armée, mais qui s'est enfui après, qui n'a pas voulu y rester, quoi. Lui, c'est un déserteur. Quand on tombe dans cette situation, insoumis ou déserteur, on est traduit en justice. C'est-à-dire, il y a un procès qui est ouvert contre toi. Ou bien tu es amené par la police devant le tribunal, ou bien si la police ne peut pas t'attraper, ce qui était le cas, puisque je n'étais pas en France, j'étais au Maroc, Donc ils font un procès qu'on appelle par contumace. C'est-à-dire qu'on juge la personne sans qu'elle soit présente. Et c'est ça qui m'est arrivé, quoi. Il y a eu un jugement qui me condamnait à la prison parce que j'avais refusé de faire mon service militaire. Et bon, naturellement, si j'étais retourné en France après ce jugement, bah, à ce moment-là, j'aurais été arrêté par la police et mis en prison. Donc, je n'avais pas tellement envie de faire ça. Les conséquences de cette impossibilité d'aller en France, c'était assez dur. Hein. Un petit exemple biographique, si vous voulez, c'est qu'à l'époque, j'étais fiancé. Bon, ben, je n'ai pas pu retourner en France, je n'ai pas pu voir ma fiancée. Puis, la relation sentimentale s'est cassée à la suite de ça, quoi. Donc, ça, c'était une suite pénible, disons, de la situation. Mais il y en a d'autres, je ne pouvais pas aller voir mes parents, etc. Donc c'était pas facile, mais ça n'a pas duré longtemps, hein, parce que j'étais insoumis en 1959, et la guerre s'est terminée en 1962. Donc c'était seulement quelques années, c'était pas grand-chose.
Qu'est-ce qui vous a amené à participer à la réalisation de ce spectacle ?
Ben, c'est les copains, les copains de l'artisterie et de l'association culturelle DIAD, dont je fais partie depuis des années. Hein. Donc, ça leur est venu. D'abord, il y a eu un premier spectacle, ce n'est pas celui dont vous parlez, c'est un autre, qui s'appelait déjà Correspondance, et qui, lui, portait sur la guerre d'Algérie, particulièrement. Donc, ils m'ont demandé de sélectionner des lettres écrites par des gens qui ont participé à la guerre, soit du côté des soldats français, soit du côté des moudjahidines algériens, ou de ceux qui ont été concernés par le déroulement de la guerre. Bon, maintenant, ce spectacle, il a tourné, etc. Maintenant, on prépare un autre spectacle correspondance, mais qui porte pas seulement sur la guerre d'Algérie, mais sur toute la période de la colonisation française. Donc, aussi bien en Indochine qu'en Afrique subsaharienne, etc. Enfin, partout où la France a créé des colonies. Alors là aussi, ça veut dire qu'il faut chercher des textes écrits par les gens qui ont participé à cette période de colonisation. On est en train de faire ça, voilà. Pendant que les musiciens, eux, ils composent la musique du spectacle.
Comment écrivez-vous vos textes à partir des lettres ?
Quelquefois, je mets une introduction avant de lire le texte pour expliquer à quel moment il a été écrit, pourquoi, etc. Donc il y a à chaque fois une courte introduction que j'ai écrit moi, hein, en fonction de ce que je sais du texte que je vais lire. Et puis après, je lis le texte. Alors pendant le spectacle, ça m'oblige à parler différemment, évidemment. Quand j'explique l'introduction, j'ai une façon de parler un peu de journaliste ou d'écrivain, etc. Mais quand je lis vraiment le texte qui vient dans le spectacle, à ce moment-là, il faut prendre une autre façon de parler, quoi. Il faut parler plus lentement, plus fortement. Faut bien mettre en relief, quoi, le texte, quoi. Par exemple, quand on a fait le spectacle sur la guerre d'Algérie, le dernier texte qu'on a lu dans ce spectacle sur la guerre d'Algérie, c'est une partie du discours d'un vice-président de l'Assemblée nationale française qui s'appelait Ben Ghanem et qui était algérien, parce que pendant la colonie, enfin, quand on dit la colonisation française en Algérie, c'est une expression qui n'est pas juste, parce que l'Algérie n'était pas une colonie. C'était un morceau du territoire de la République française, l'Algérie. Et donc, quand on était en Algérie, on était en France. Et d'ailleurs, les Algériens, avant qu'ils deviennent indépendants, c'était des Français. Simplement, ils n'avaient pas les mêmes droits que les Français de la métropole. Si ça vous intéresse, je pourrais vous l'expliquer. Ce Ben Ghanem, il faisait partie des Algériens qui collaboraient avec la France pour maintenir sa présence en Algérie. Et quand Quand la guerre a été terminée, quand les Algériens ont voté dans le référendum d'autodétermination qui a eu lieu en juillet 62, évidemment, tout d'un coup, ce Ben Ghanem s'est rendu compte que tout ce qu'il avait investi dans sa collaboration avec la France partait en poussière. C'était, en plus, son fils était mort dans cette guerre et tout ça. Bon. Alors, j'ai lu une partie de son discours devant l'Assemblée nationale parce que j'ai pensé que c'était une bonne façon de terminer cette histoire pour montrer les conséquences que ça avait eues dans la vie et des Français et des Algériens. En particulier, dans son discours, il parle des harkis. Et il s'attaque, il condamne la politique du gouvernement français de l'époque qui n'avait pas accepté d'accueillir en France la totalité des harkis qui s'étaient engagés dans l'armée française en Algérie. Donc c'est pour vous expliquer que là, pour que les gens comprennent, il fallait bien que je fasse une introduction pour présenter le Ben Ghanem en question, expliquer ce qu'il avait fait, etc., pour que les gens comprennent, quoi.
Tout à l'heure, vous nous parliez de la différence de droit entre les personnes de la métropole et de l'Algérie. Et vous nous disiez que vous pourriez nous raconter, et moi ça m'intéresse pas mal, donc je voudrais bien que vous nous racontiez si c'est possible.
Ben, je peux vous expliquer pourquoi il y avait une différence, oui. Les Français d'Algérie, à l'époque, je rappelle, l'Algérie faisait partie de la France, c'était trois départements français, l'Algérie, département de Constantine, département d'Alger, département d'Oran, et la population de ces trois départements, c'était des Français. Mais parmi ces Français, il y avait une distinction très claire entre les Français qui venaient d'Europe, on les appelait les Français d'Algérie à l'époque, mais les Français au sens français de souche, comme on dit maintenant. Donc il y avait ces Français-là, qui eux avaient tous les droits de citoyens français de Paris ou de Limoges ou de Brest, quoi. C'était à égalité avec les citoyens français en France. Et puis, il y avait ce qu'on appelait les Français musulmans d'Algérie, FMA. Alors, pourquoi est-ce qu'on faisait cette distinction? Parce que, alors la raison, il y avait une raison juridique ou politique pour présenter les choses d'une manière acceptable. Et puis, il y avait les raisons véritables de fond. Pourquoi on distinguait ces Français musulmans d'Algérie par rapport aux autres? La raison de fond véritable, c'est que les Français d'Algérie, qui eux étaient des citoyens à part entière, considéraient que les Algériens, donc les musulmans d'Algérie, étaient une population, disons, inférieure, ils n'avaient pas la même qualité, la même... D'ailleurs, la France n'a fait aucun effort pour développer l'instruction publique en direction de ces Algériens. Quand l'Algérie est devenue indépendante, il y avait une majorité de ces enfants qui n'étaient pas scolarisés, des enfants algériens, quoi. Alors, comment ça se manifestait concrètement parlant, enfin juridiquement parlant? La France disait, il faut les mettre à part parce que comme ils sont musulmans, il faut leur donner un statut personnel particulier. Et l'exemple qu'on prenait toujours, c'était le fait que la religion musulmane permettait la polygamie, donc qu'un homme pouvait avoir plusieurs femmes, alors que dans le droit français, c'était interdit. C'était pas possible qu'un homme ait deux femmes ou trois femmes ou quatre femmes. Alors, le gouvernement français s'est appuyé sur cette particularité du droit musulman pour dire qu'il fallait leur réserver un statut personnel particulier pour leur permettre de vivre leur religion comme ils voulaient, quoi. Seulement, dans la réalité des faits, ils ont donc divisé la population d'Algérie en ce qu'on appelait des collèges. Premier collège, deuxième collège. Alors le premier collège, c'était celui des Français musulmans d'Algérie. Et sur les 10 millions d'habitants en Algérie, c'était 9 millions de Français musulmans d'Algérie. C'était le premier collège. Et puis les Français qui vivaient en Algérie, c'était le dixième, là, le dernier million. Donc, c'est eux qui formaient le deuxième collège. Et ces deux collèges élisaient l'Assemblée algérienne. Il existait en Algérie une assemblée, un peu comme l'Assemblée nationale ici en France, mais en Algérie, une assemblée algérienne pour pouvoir administrer, au fond, l'Algérie par ses citoyens. Seulement, les 9 millions de Français musulmans d'Algériens, ils avaient exactement le même nombre de sièges que le 1 million des Français d'Algérie. Donc vous voyez la différence qu'il y avait entre eux. C'est-à-dire que c'était toujours, évidemment, la politique française qui l'emportait dans cette assemblée algérienne, puisque les Algériens de culture, d'origine, etc., étaient sous-représentés. Si bien qu'on peut dire, au fond, qu'à cette époque-là, la France, c'était un pays d'apartheid. C'est-à-dire un pays où une partie des Français n'avait pas les mêmes droits que les autres citoyens. Donc voilà un peu, j'espère que ça répond à ta question. Ça permettait, pour les Français, ça permettait de traiter en inférieur les Algériens, alors qu'ils étaient Français tous les deux. D'ailleurs, quand il y avait des guerres, on ne faisait pas la différence, hein. On mobilisait aussi bien les Algériens que les Français. Ils allaient se faire tuer, également. Je ne parle pas de la guerre d'indépendance, là. Je parle de la, par exemple, la guerre contre le nazisme, ou bien les guerres en... Et même les Algériens, ils ont été mobilisés pour aller faire des guerres coloniales dans les autres colonies. Ça a existé aussi.
Pour préparer cette interview, nous avons lu la lettre de Noël à son père. Pouvez-vous nous en lire un passage et nous dire qu'est-ce qui vous intéresse dans ce texte ?
Ben, ce qui m'intéresse le plus, c'est ce qu'il a fait. Ben, le texte est vraiment intéressant, il est très bien écrit. Il reflète bien les sentiments que ce jeune soldat avait quand il a fait sa désertion. Parce que lui, alors, c'est un déserteur. Il était soldat dans l'armée française, du côté de la frontière tunisienne en Algérie. Et il a constaté que son chef de bataillon avait quelques prisonniers algériens qu'il avait mis en prison, dans le camp de leur régiment. Et puis, un jour, il est venu, il a pris un de ses prisonniers, il l'a mis dans un hélicoptère, il est parti avec lui en disant qu'il allait à l'état-major. Bon, donc il est parti, et puis l'hélicoptère est revenu, mais il est revenu trop vite. C'est-à-dire que c'était impossible qu'il ait eu le temps d'aller à l'état-major et de revenir. Et quand il est revenu, il n'y avait plus le prisonnier algérien dedans. Et donc le gars de Noël en question, il a compris que son chef avait jeté l'Algérien depuis le ciel pour le faire s'écraser par terre, quoi. Si bien que quand son patron a annoncé que le jour d'après, il allait recommencer avec un autre prisonnier qui était toujours là, il a compris que le gars, il allait aussi être assassiné. Et c'est là qu'il a décidé qu'il ne pouvait pas accepter ça, que c'était une façon de faire qui était inacceptable pour lui. Et donc il s'est enfui, il a organisé sa fuite. Comme ils n'étaient pas loin de la frontière tunisienne, il a libéré l'Algérien la nuit, il a libéré l'Algérien et il est parti avec lui à travers le pays jusqu'à la frontière tunisienne. Et ça a été c'était pas loin, mais il fallait quand même faire quelques dizaines de kilomètres. Et ils ont mis 2 ou 3 jours pour faire ces quelques kilomètres parce qu'ils pouvaient marcher que la nuit. Étant donné que le jour, il y avait tous les avions français qui passaient pour espionner où ils étaient, pour les chercher, etc., et les rattraper. Et finalement, il a réussi à passer la frontière avec son prisonnier algérien, et puis il raconte dans son texte où il dit « Papa, tu sais très bien que je n'ai pas trahi mon pays, mais que bien au contraire, car c'est maintenant que je le sers en empêchant les Algériens de haïr cette France qu'ils ont aimée. » Parmi eux, je suis la preuve que tous les Français ne sont pas des colonialistes et tous les paras des SS. Et c'est intéressant parce que c'est pas dans le texte là, mais dans le livre qu'il a écrit, ce gars, il raconte que quand il est arrivé en Tunisie avec le prisonnier algérien, il a été reçu chez beaucoup de gens et tout ça. Et il raconte que toujours l'Algérien qui l'accompagnait le présentait aux autres en disant « Voilà, c'est un vrai Français ». C'est assez marrant comme présentation. C'est-à-dire que dans la tête de ces Algériens, les Français étaient divisés en deux catégories. Ceux qui étaient des vrais Français et donc attachés aux droits de l'homme, à la lutte contre l'oppression, etc. Et puis ceux contre lesquels ils se battaient, c'est-à-dire les militaires, ceux qui voulaient maintenir l'Algérie française. Voilà.
Que pensez-vous de ce que ce spectacle apporte dans le contexte politique actuel ?
Alors donc ce spectacle, il est manifestement appuyé sur une prise de position contre les colonisations. Et donc, pour répondre à ta question, il faut se demander, est-ce qu'il y a encore des colonies dans le monde aujourd'hui ? Parce que s'il y a encore des colonies dans le monde aujourd'hui, ben un spectacle comme ça, ça peut aider à prendre conscience, à savoir de quel côté on se met, etc. Par exemple, l'État d'Israël, il occupe des territoires occupés de la Palestine, et dans ces territoires occupés, il crée des colonies, c'est-à-dire des agglomérations ou des groupements d'habitations qu'ils ont construits, dans lesquels ils envoient des citoyens israéliens, et qui fonctionnent comme une façon de coloniser le territoire palestinien. Donc ça, c'est un exemple local dans le conflit entre Palestiniens et Israéliens. Hein. Ceci dit, il y a aussi des gens qui pensent qu'il y a des parties de l'ancien empire français qui ne sont plus des colonies parce qu'ils ont été transformés en départements français. Par exemple, la Guyane. Vous savez qu'en ce moment, la Guyane est en échauffement social très, très, très sérieux, très grave. Il y a des manifestations, une grève générale même cette semaine en Guyane, pour protester contre la façon dont la France gère le fonctionnement économique et social et politique de la population en Guyane. Bon. La Guyane est un département français. Ce n'est pas une colonie, juridiquement parlant. Mais il semble bien qu'il y ait des restes de l'état d'esprit colonial dans la façon dont on gère ce territoire. Donc, ça peut conduire à prendre des positions ou à exiger que la façon dont le gouvernement français se comporte en Guyane change pour qu'il traite vraiment les habitants de ce département comme des citoyens français, comme les autres, quoi. Et ce n'est pas le seul endroit. Il y a aussi l'île de la Réunion, près de Madagascar. Il y a aussi l'île de Mayotte. Il y a aussi les îles du golfe du Mexique, la Guadeloupe, la Martinique, etc. Dans tous ces coins-là, c'est des restes de l'ancien empire colonial français qui ont été transformés en départements. Donc, qui, théoriquement, ils font partie de la France comme la Bretagne ou le département de PACA ou des choses comme ça. Bon. Le problème, c'est que il faudrait que la gestion du territoire français, compte tenu de tous ces petits départements répartis dans le monde, que ça soit la même chose, que tout le monde soit à égalité, quoi. Or, en ce moment, c'est pas encore le cas. Alors peut-être qu'un spectacle sur cette question de colonisation peut avoir des échos, disons, sur ce problème-là.
Selon vous, qu'est-ce que la culture et le spectacle apportent à vos engagements ?
À mon avis, ils apportent beaucoup. Faire un spectacle sur la colonisation, ça peut conduire les gens à s'engager contre la colonisation. J'espère que le spectacle ne va pas conduire des gens à s'engager pour. Mais après tout, tout peut arriver en matière culturelle. Et puis, d'autre part, à part le fait de sensibiliser, si on peut dire, le public par rapport au sujet du spectacle, il y a aussi un aspect informatif. Dans les activités culturelles, on peut transmettre des informations auprès du public que les gens ne connaissent pas. Et ça contribue, disons, à former leur conscience, leur connaissance sur le monde, ou pas seulement sur le monde, mais même un spectacle sur un problème individuel, un problème humain, etc. Ça peut conduire le spectateur à mieux comprendre qu'est-ce que c'est que la jalousie, qu'est-ce que c'est, des sentiments comme ça, quoi. Et puis, j'ajouterais une troisième interaction entre public et artiste, c'est que des spectacles culturels, ils donnent l'opportunité au public de se rassembler, tout simplement de se rassembler, d'être ensemble. Et quand on fait une manifestation en rassemblant des gens en nombre important, ça change les pensées, les sentiments que chaque individu a dans le groupe. Donc, l'action culturelle, les activités culturelles, elles ont cet effet vraiment très important d'aider les individus à acquérir leur propre culture, à l'enrichir et aussi à la vivre avec les autres. Parce que c'est ça qui est important, c'est de ne pas rester tout seul dans son coin comme un consommateur bête et méchant, mais comme membre d'un groupe, d'un collectif, d'un peuple, etc., ben, les activités culturelles, elles ont ce rôle-là. La culture, c'est une activité absolument essentielle. Elle contribue beaucoup à l'épanouissement, à la formation des individus.
Merci pour ces questions et pour toutes ces informations.
Eh ben, moi, je vous remercie aussi. C'était très sympa. Et j'espère que ça vous a apporté quelque chose et que, au lieu d'avoir seulement quelques questions dans la tête, maintenant vous en avez 10 fois plus, quoi.
Je vous rappelle que le spectacle correspondance aura lieu le mardi 23 mai à 19h30 à la Source de Fontaine. Le prochain rendez-vous aura lieu le vendredi 14 avril dans le cadre de la semaine de l'engagement. Ce sera un numéro spécial de Radio Pierrot puisque nous serons en public pour un radioconcert. Nous parlerons d'égalité et d'engagement et nous serons accompagnés par les musiciens du collectif Mawal et les élèves de 3e 3 aux percussions. Merci et à bientôt.